Et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver. L'antenne vous appartient, comme tous les jours à cette heure-ci. RFI vous propose de commenter l'actualité. Et ce matin, au lendemain du premier tour des élections départementales françaises, eh bien, je vous propose de commenter le paysage politique français. La droite, vous le savez, sort largement en tête de ce scrutin, alors que les sondages donnaient l'UMP et ses alliés au coude à coude avec le Front National. Il n'y a donc pas eu de vague bleu marine, même si le parti de Marine Le Pen réalise le meilleur score de son histoire dans des élections locales. En revanche, sans surprise, la défaite annoncée du Parti Socialiste a bien eu lieu. Alors quel regard portez-vous sur les grandes tendances de ce premier tour? La percée de la droite, faut-il y voir d'ailleurs une volonté d'alternance, comme l'affirme Nicolas Sarkozy? Vos réactions également sur l'enracinement du Front National et sur l'échec de la gauche. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Plusieurs questions sur la victoire la semaine dernière de Benjamin Netanyahou aux élections législatives en Israël. Olive nous appelle de Goma. Goma, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Olive.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci Oran. Au fait, concernant les dernières élections en Israël, tous les sondages prévoyaient que Benjamin Netanyahou soit perdrait, soit prêt au coude à coude avec le centre gauche. Mais les résultats du scrutin ont en quelque sorte jeté le pavé dans la mare en donnant une large victoire au parti des droites, le Likoud, avec la majorité des sièges à la Knesset, entre 29 et 30. Alors je me demande, comment expliquer cette erreur de sondage généralisé? Et en deuxième lieu, qu'a fait Benjamin pour renverser la tendance et in fine gagner les voix au dernier moment?
Ouais, c'est vrai que c'est un triomphe inespéré pour le Premier ministre sortant. Son parti, le Likoud, arrive en tête, mais il n'a pas la majorité. Et c'est toute la problématique. Il va devoir évidemment, comme à chaque fois d'ailleurs en Israël, former une coalition gouvernementale. Mais c'est vrai que son parti a obtenu 30% des sièges sur les 120 que compte la Knesset. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la correspondante permanente d'RFI en Israël. Comment Benjamin Netanyahou a-t-il déjoué les sondages?
Alors d'abord, il y a eu des erreurs de sondage. Effectivement, les derniers sondages annonçaient 4 sièges d'avance pour le centre-gauche devant le Likoud de Benjamin Netanyahou. Mais les derniers sondages ont été effectués 4 jours avant le vote. Et en 4 jours, eh bien effectivement, les choses peuvent changer. Benjamin Netanyahou a fait une campagne très active et très agressive les tout derniers jours, justement, et ça a inversé la tendance. Et puis, il y a eu aussi les sondages sortis des urnes le soir de l'élection qui, eux, ont annoncé une égalité entre les deux listes et qui se sont bien trompés, puisqu'au final, après un réel décompte des voix, il s'est avéré que Netanyahou est sorti bien en tête. Eh bien, les instituts de sondage ont expliqué leur erreur dans la presse israélienne. On dit que lorsqu'ils ont fait les sondages en fin d'après-midi, lorsque ces sondages sortis des urnes ont été publiés à 22h lors de la clôture des bureaux de vote, eh bien, il y a eu encore beaucoup d'électeurs et que, évidemment, il y a une incertitude sur leur choix. Et puis, certains électeurs auraient également refusé de répondre, d'où ces erreurs, d'où ces estimations faussées. Alors, pour répondre à la deuxième question de Olive, comment Netanyahou a fait pour inverser la tendance et gagner des voix au dernier moment? Eh bien, il a tout simplement joué sur la peur. Lorsqu'il a vu les derniers jours des élections de la campagne électorale que les sondages lui étaient défavorables, il est allé sur le terrain, dans des meetings, il est allé voir les colons surtout, il leur a dit « Si je ne suis pas réélu, la gauche va arriver au pouvoir, elle va brader les territoires, vous n'aurez plus qu'à faire vos bagages, ils vont donner Jérusalem aux Palestiniens ». Et vous savez que Netanyahou s'est très bien joué sur la peur, comme il le fait lorsqu'il le parle de la menace iranienne. Pour résumer, je suis le seul à pouvoir assurer votre sécurité. Et il a réussi donc à convaincre d'abord les indécis et puis surtout les colons qui votaient traditionnellement plus à droite que le Likoud, pour les partis d'extrême droite, pour les partis nationalistes. On le voit très nettement dans les résultats des élections. Ces partis ont perdu des voix qui sont allées au Likoud de Benjamin Netanyahou, d'où cette victoire éclatante.
Voilà, Benjamin Netanyahou qui a donc radicalisé son discours dans la dernière ligne ligne droite de la campagne électorale en promettant, vous le disiez effectivement, de poursuivre les constructions dans les colonies. Et il a surtout promis qu'en cas de victoire, il s'opposerait à la création d'un État palestinien. Autre question, Lucien, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Ok, concernant les mêmes élections, le Likoud est sorti vainqueur sans majorité absolue. Alors, une coalition donc s'impose. Avec quel parti le Likoud va se coaliser pour gouverner? Ensuite, quels sont les compromis que Benjamin Netanyahu doit-il faire au parti de la coalition, étant tendu qu'il n'a pas forcément besoin d'eux pour gouverner?
Ouais. Alors, la coalition, quelle coalition? C'est une bonne question, Muriel Paradon. Déjà, il ne fait aucun doute que le président israélien va désigner Benjamin Netanyahou pour former le prochain gouvernement. À partir de ce moment-là, Benjamin Netanyahou va disposer de 28 jours, qui seront sûrement prolongeables, pour essayer de convaincre une majorité de 120 députés de rejoindre sa coalition. On s'active déjà, hein, évidemment, dans le camp de Benjamin Netanyahou pour essayer de former la plus large coalition possible.
Oui, alors il y a des partis assez évidents. Ils pourraient former un gouvernement très ancré à droite, d'abord avec ses partenaires de l'ancienne coalition, le foyer juif, hein, ce sont des nationalistes religieux défenseurs de la colonisation, Israël Beitenu, qui est l'extrême droite, pourrait se rajouter deux partis ultra-orthodoxes qui sont des alliés traditionnels des gouvernements de droite, et enfin le nouveau parti centriste Kulanu, dirigé par Moshe Karlon, qui est un ancien du Likoud et qui a fait campagne sur les questions sociales. Avec toutes ces formations, Netanyahou pourrait avoir une majorité de 67 sièges sur les 120 que compte le Parlement. Ce serait une coalition assez cohérente. Maintenant, tout est possible. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui courent dans la presse israélienne pour dire que la coalition pourrait être encore plus large et pourquoi pas inclure des personnalités de gauche pour montrer un signe d'ouverture vis-à-vis de la communauté internationale qui est assez inquiète de voir un futur gouvernement très ancré à droite et un peu anti-palestinien finalement. Les États-Unis menacent de revoir leur lien avec Israël si le futur gouvernement se radicalise encore plus. Maintenant, Yitzhak Herzog, hein, le leader du Parti travailliste, qui était l'adversaire de Netanyahou durant cette campagne, a dit que l'option la plus réaliste pour lui était d'être dans l'opposition. Donc il faudra attendre encore plusieurs semaines avant de connaître la formation de cette coalition.
Voilà, à suivre donc, et patience évidemment. Muriel Paradon, encore une question hein, sur ces élections israéliennes. Maki est en Guinée. Bonjour Maki.
Oui, bonjour Juan et bonjour Muriel.
On vous écoute.
Ok, d'accord Juan. C'est comme vous le disiez aussi, les Israéliens ont élu le mardi dernier un nouveau Parlement, mais avec encore en tête Benjamin Netanyahu. Mais cette fois, la liste commune arabo-israélienne est devenue la troisième force de l'Assemblée. Alors Muriel, moi j'aimerais savoir quelle pourrait être l'influence supposée politique de cette troisième force arabe sur la politique menée par Benjamin Netanyahu. Aussi sa politique externe, notamment ses relations avec la Palestine.
C'est vrai que c'est le plus important succès électoral des Arabes israéliens. 14 sièges, ils sont donc la troisième force politique d'Israël. Quelle peut être leur influence désormais?
Alors une influence beaucoup plus forte. Alors finalement, ils ont obtenu 13 sièges, hein, après un résultat plus définitif, contre 11 avant. C'est pas beaucoup de sièges de plus, mais ce qui est très important, c'est qu'ils sont unis. Hein. Avant, ils étaient dans différents petits partis. Là, il y a vraiment une union. Et la tête de liste, Ayman Odeh, qui est un avocat de 40 ans, est quelqu'un qui a réussi à fédérer tout le monde et qui a la cote, en fait, hein, même auprès des Israéliens. Il a un discours beaucoup plus modéré que certains députés sortants, comme Hanin Zoabi, qui est très radical dans ses propos. Alors effectivement, d'abord ils ont plus de visibilité et ils espèrent obtenir surtout des présidences dans les commissions parlementaires, là où on forme les lois. Les Arabes israéliens espèrent notamment avoir des affaires sociales pour pouvoir améliorer le sort de la communauté arabe israélienne. Plus de la moitié d'entre elles vit sous le seuil de pauvreté, donc pour améliorer son sort. Plus globalement, ils vont essayer de gommer les discriminations dont les Arabes israéliens sont victimes. Sur les questions sécuritaires, ça sera certainement beaucoup plus difficile d'avoir une influence sur la politique de Netanyahou s'il forme un gouvernement très à droite, mais ils pourront toujours faire entendre leur voix, protester contre la colonisation par exemple. Enfin, sur les relations avec les Palestiniens, eh bien, Ayman Odeh, hein, la tête de liste du parti, a dit avant les élections qu'il lutterait et qu'il ferait tout pour mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens. C'est évidemment le but ultime de ces Arabes israéliens qui, rappelons-le, sont les descendants des Palestiniens qui sont restés sur leur terre après la création d'État d'Israël en 48. Mais évidemment, sur ces questions-là, ça ne va pas être facile. Mais effectivement, en étant unis, en étant plus nombreux, et en ayant effectivement Eman Odeh comme tête de liste, qui est quelqu'un qui a l'écoute, hein, notamment du président israélien, Reuven Rivlin, et qui est quelqu'un qui a été très apprécié dans les médias israéliens, peut-être qu'ils vont avoir effectivement plus de poids, même avec un gouvernement dirigé par Netanyahou.
En tout cas, il y a une forte participation de l'électorat arabe, 66% de participation, c'est 10 points de plus qu'en 2013, donc voilà, forte implication des Arabes israéliens désormais dans la vie politique israélienne. Merci Muriel Paradon d'avoir été en direct avec nous de Jérusalem, il est 9h20 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction, et n'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat politique sur la situation en France au lendemain du premier tour des élections départementales, large victoire de l'UMP et de ses alliés de l'UDI, le parti de Marine Le Pen qui conforte sa place, deuxième formation politique alors que les sondages annonçaient une vague bleue, un raz-de-marée pour le Front National, ça n'a pas été le cas, en revanche, pas de surprise pour le Parti Socialiste, défaite comme l'annonçaient donc les sondages. Vos réactions, vos commentaires, 33 9 693 693 70. On a envie de vous entendre sur la politique française. Autre question au standard. Pille est avec nous. Bonjour.
Ah, bonjour.
Bienvenue. Vous nous appelez de N'Djamena. Vous êtes au Tchad.
Oui, tout à fait.
Voilà. Vous avez des questions concernant l'Égypte et un projet de nouvelle capitale.
C'est ça. J'ai une question à deux fois concernant l'Égypte.
Oui.
La première, pourquoi l'Égypte veut construire une nouvelle capitale?
Oui.
Et la seconde, vu le contexte actuel de l'Égypte, comment ce projet sera-t-il financé?
Alors, effectivement, le président Al-Sisi veut construire une nouvelle capitale, une capitale administrative et financière. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Vous êtes le correspondant des RFI au Caire. C'est un projet très ambitieux qui a été dévoilé il y a quelques jours lors d'une conférence économique organisée pour attirer les capitaux étrangers et pour relancer l'économie du pays. Pourquoi une nouvelle capitale?
Alors, tout simplement parce que le Caire étouffe, le Caire s'asphyxie. Le Caire, c'est 18 millions d'habitants le jour, la nuit. Mais le jour, on dépasse les 22 millions d'habitants. Donc inutile de faire un dessin sur l'état de la circulation automobile qui est catastrophique. On est plus au point mort qu'en première ou en deuxième. Les infrastructures ne suivent plus. Malgré la construction de 3 lignes de métro, ça ne suffit plus. Il y a 5 qui sont prévues, mais il faudra aussi d'énormes moyens. Et aussi, le Caire n'est plus adapté, selon tous les cas des décideurs, pour l'économie moderne qui doit se faire, et qui doit se faire notamment du côté du canal de Suez, avec un développement actuellement élargissement, approfondissement du canal de Suez, et donc une économie qui sera tournée vers le commerce international, et donc c'est pour cela qu'on a décidé qu'il faudrait une nouvelle capitale administrative avec tous les ministères, la présidence, le Parlement, mais aussi tous les centres de décision financière qui iront dans cette nouvelle capitale qui, soit dit en passant, fait 7 fois la dimension de Paris intramuros.
Effectivement, et 12 fois plus grand que Manhattan et 3 fois plus grand que Washington, a affirmé le ministre du Logement. Donc l'idée, c'est d'abriter donc toutes les institutions officielles, probablement même la bourse. On ne sait pas encore si la bourse du Caire sera déplacée dans cette nouvelle ville. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un projet pharaonique. On parle de 43 milliards d'euros.
43 milliards d'euros, c'est le chiffre retenu au départ. Alors c'est un chiffre qui devrait en fait couvrir la phase 1 du développement de la ville, une ville qui devrait en principe accueillir 7 millions d'habitants, donc en principe décongestionner en tous les cas en grande partie le Caire. Mais aussi avec des gratte-ciel, avec une ville très moderne, écologique, solaire, etc., mais avec beaucoup d'espace vert, mais aussi une ville qui va au-delà, puisqu'on y prévoit le plus grand parc d'attractions du monde.
Oui, pour attirer les touristes, qui financera le projet?
Alors, la question est là. Alors, pour l'instant, les décisions qui ont été prises, primo, on a repris le terrain aux militaires, puisque l'armée égyptienne contrôle pratiquement tout terrain qui n'appartient à personne en Égypte. Et donc, le terrain est maintenant entre eux, a été remis au gouvernement. Les travaux ont déjà commencé. C'est le génie de l'armée qui commence à faire des routes pour pouvoir accéder à cette énorme superficie de 700 km². La question du financement, alors il y a plusieurs hypothèses qui sont proposées. Alors la première hypothèse consisterait à avoir des aides et des dons des Émirats, puisque les Émirats ont signé avec l'Égypte un contrat pour la construction de cette nouvelle capitale, et donc les Émirats qui ont un surplus pour l'instant en tous les cas de pétrodollars, mais il y a aussi la possibilité de faire des sortes de bons du trésor, comme cela a été fait pour l'élargissement du canal de Suez, et les Égyptiens ont acheté pour presque 10 milliards de dollars en 8 jours de bons du trésor, donc ça serait la seconde solution. Mais la troisième solution, c'est une fois qu'on a fait les infrastructures, ça sera en quelque sorte au secteur privé de financer le projet, et donc le secteur privé, avec les bénéfices qu'il fera, il donnera une partie de ses bénéfices, au lieu de payer des impôts, il paiera les bâtiments publics du gouvernement.
Bon, donc tout ça n'est pas encore totalement ficelé. En tout cas, cette nouvelle capitale administrative sera située à une soixantaine de kilomètres à l'est du Caire. Merci Alexandre Bouchanti d'avoir été en direct avec nous, et on accueille Frédéric Gara, qu'on vient d'appeler. Il est notre correspondant permanent en Côte d'Ivoire. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On vous appelle car on a des questions concernant la politique ivoirienne, et ce dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Bonjour Grogui.
Bonjour Juan, bonjour.
On vous écoute.
Alors, en Côte d'Ivoire, une nouvelle coalition anti-Ouattara vient de voir le jour. Alors, je voulais savoir quelles sont les différentes forces politiques qui composent cette coalition, quelle est sa stratégie, son programme commun et ses moyens d'action.
Ah, programme commun. Frédéric Gara, une coalition anti-Ouattara, donc vu le jour, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très hétéroclite. Certains diront même qu'il s'agit d'une union contre nature. Qui compose cette coalition ?
Eh ben, dans cette coalition, parmi les formations politiques que l'on relève, il y a par exemple l'Union pour le développement et les libertés, l'UDL, un parti politique ivoirien présidé par Martial Ahipo. Ahipo qui a été le cofondateur de la FESI, vous savez, c'est le syndicat étudiant ivoirien très présent sur le campus universitaire. Il y a également le CRI, le Congrès pour le renouveau en Côte d'Ivoire, présidé par Abel Naki. Mais les trois principales composantes de cette nouvelle coalition sont le leader de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, ancien cadre du FPI, les quatre irréductibles du PDC, que sont Kouadio Colombertin et Siamara, Charles Colombani et Jérôme Brocablan. Et enfin, il y a également l'hôte de cette première réunion de la coalition à laquelle on a assisté jeudi dernier, à savoir Aboudraman Sangaré, qui, depuis un comité extraordinaire à Abidjan il y a 15 jours, est désigné secrétaire général du FPI, une fonction, Juan, que Pascal Affine-Guessant, le président en titre du FPI, conteste et attaque en justice pour obtenir son invalidation. C'est donc cet ensemble de partis effectivement assez hétéroclites et de mouvements qui constituent la nouvelle coalition politique anti-Ouattara, une union qui, comme l'a dit Mamadou Koulibaly lors d'un rapide point de presse mercredi dernier, a pour principal objectif de faire chuter le président sortant, Alassane Ouattara, qui, je vous le rappelle, vient d'être désigné hier dimanche officiellement candidat du RDR pour la présidentielle 2015. La coalition vise à faire reculer Ouattara sur tous les points de processus électoral, et elle demande notamment la remise en place de la CEI, la Commission électorale indépendante, des inscriptions sur les listes électorales qui ne fassent pas l'objet de contestation, l'accès aux médias d'État, et enfin une ligne claire sur le financement des partis politiques pendant la campagne.
Frédéric Gara, est-ce que votre emploi du temps vous permet d'être avec nous juste après le journal ?
On peut effectivement continuer après le journal.
Voilà, et on expliquera à Grogui quelles sont les stratégies et quel est le programme finalement de cette nouvelle coalition anti-Ouattara dans la perspective de la présidentielle d'octobre. 33 9 693 693 70, on attend également vos réactions sur le paysage politique français au lendemain du premier tour des élections départementales. À tout de suite.